Donc nous sommes là pour parler d'un gros livre qui s'appelle « Zéro faute », l'orthographe, avec comme sous-titre « L'orthographe, une passion française ». Vous avez pensé à l'histoire des passions françaises de Théodore Zeldin ?
Oui, l'histoire. Et j'étais sur le point après, mais j'aurais dû mettre une crispation, mais voyez l'orthographe, du coup mon S serait devenu un T, je ne sais pas pourquoi.
On le trouve le mot crispation, hein. Oui, le jeu de mots à l'intérieur, on le trouve. Alors, l'orthographe, c'est un terrain sur lequel on vous attendait peu. On sait que vos curiosités sont très, très larges. Le thème de vos livres est souvent très diversifié, mais l'orthographe, bon, ça surprend un peu. Et puis, alors, deuxième surprise, l'orthographe aujourd'hui. Évidemment, l'orthographe et sa réforme, l'orthographe française et sa réforme, c'est une espèce de serpent de mer. C'est, comme disent, et vous utilisez ce terme à un certain moment, comme disent les journalistes, un marronnier. On ressort ça à l'Académie française, par exemple, assez régulièrement. Pourquoi alors ? Pourquoi maintenant et pourquoi vous ?
Alors pourquoi moi ? Ben, je pense au contraire que ce livre est exactement dans le droit fil d'une vingtaine d'essais que j'ai consacrés à la société française. Parce que j'ai voulu voir et observer, effectivement, comme vous l'avez dit, sous des angles fort variés, que ce soit la médecine moderne, que ce soit l'école, que ce soit le corporatisme, que ce soit les technologies, j'ai voulu observer cette incroyable résistance de la société française face aux transformations du monde, face à une évolution nécessaire, une évolution pour rester soi-même. L'évolution, le principe de l'évolution, c'est qu'il faut changer, s'adapter pour rester soi-même. Et la société française est fort peu évolutive. Donc je l'ai montré dans des domaines très variés, mais l'exemple emblématique, c'est l'orthographe et l'écriture française et l'orthographe. C'est là que l'on voit se manifester cette raideur quasiment minérale de la société française face aux exigences du changement. Et pourquoi l'orthographe aujourd'hui ? Parce qu'effectivement, pendant 150 ans, on a joué au petit jeu, on va faire la réforme, où les Vendéens, ils vont se massacrer le français. Bon, on arrête, et puis on prenait, on va faire la réforme de l'orthographe, où les Vendéens ? Bon, et puis on arrêtait. C'était un petit jeu bien aimable, mais en attendant, le système de l'orthographe marchait, on verra comment, et les Français, l'un dans l'autre, savaient l'orthographe. Il se trouve, et nous verrons pourquoi, qu'aujourd'hui, le système orthographique français s'est effondré. S'est effondré depuis à peu près 20 ans, et que les jeunes, à l'évidence, ne savent plus et n'apprendront plus et ne sauront plus l'orthographe comme le savaient leurs parents. Et que donc, face à ce changement de l'écriture, car l'écriture, dans les 20 dernières années, a plus changé que pendant 4000 ans. Mais on ne s'en est pas rendu compte, on ne l'a pas observé, on n'a pas tiré les conséquences, et on regarde crispé, effaré, cet effondrement de notre système orthographique, et tout ce qu'on sait dire aux professeurs désespérés, parce que maintenant, c'est un fait, ils ne peuvent plus remplir la mission qu'on leur demande d'apprendre l'orthographe du 19e siècle aux enfants. Ils ne peuvent plus. Et on les regarde désespérés, on dit non, faut continuer, nous on a bien pu, essayez donc. Et à la limite, les parents manifestent leur rancœur vis-à-vis des professeurs, alors que les professeurs font de leur mieux, sont aussi consciencieux et sont de la même valeur que tous ceux qui les ont précédés, simplement la situation a changé. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est une fois de plus la société française confrontée au changement et se crispant au lieu d'aller chercher vers l'avant la solution.
Alors, ce qui est surprenant, c'est que le premier chapitre du livre, c'est un chapitre consacré au mode interrogatif.
Et pas à l'orthographe.
C'est-à-dire à la syntaxe, n'est-ce pas ? C'est au mode interrogatif, à la manière dont la phrase interrogative correcte s'efface progressivement de nos habitudes verbales, et où les « t'es où ?»,« tu viens d'où ?»,« tu veux quoi ?» se substituent, n'est-ce pas, à est-ce que tu veux ou que veux-tu ? Alors, ça commence par un chapitre sur la syntaxe. Or, je me demande si la colonne d'une langue, n'est-ce pas, ce n'est pas davantage la syntaxe, sa colonne vertébrale, n'est-ce pas, ça n'est pas davantage la syntaxe que l'orthographe. Et si il n'y a pas, parallèlement à cet effondrement de l'orthographe que vous déplorez, tout au long de ces pages, un effondrement parallèle et peut-être plus grave de la syntaxe. Est-ce que je peux faire sourire en lisant page 106, n'est-ce pas, une phrase de notre président de la République que vous reproduisez, s'il y en a que ça les démange d'augmenter les impôts. Bon, s'il y en a que ça les démange d'augmenter des impôts, un chef de l'État français qui s'exprime ainsi, et là il porte atteinte à la syntaxe.
Oui, alors je dirais, juste pour faire une parenthèse, qu'il y aurait à écrire tout un livre sur les relations de pouvoir en France à travers le langage. Des hommes comme le général de Gaulle ou même François Mitterrand faisaient bien entendre aux Français qu'ils ne parlaient pas comme eux. Et c'est pour ça qu'ils les commandaient. Ils étaient au-dessus d'eux. Et ils devaient être à un niveau de langage au-dessus. Aujourd'hui, au contraire, il faut être au niveau, il faut être proche des gens. Écoutez, je parle comme vous, je fais les mêmes fautes que vous. Voyez, on peut se comprendre. Et là, il y a un débasculement du pouvoir sur lequel il faudrait réfléchir. Mais je veux revenir à ce que vous dites, et je vous remercie. Ce livre sur l'orthographe commence par un chapitre qui ne parle pas de l'orthographe. Qui parle d'une chose, je vous l'accorde, beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Et je prends cet exemple du l'abandon, la disparition, en l'espace de 20 ans, du mode interrogatif. Désormais, si vous dites « et quand nous reverrons-nous ?», vous dites « donc, c'est un marquis du 18e siècle, celui-là. On se voit quand ?» Ça, c'est français. Bah, d'abord, pourquoi utiliser le futur ? On se voit quand ? Bah, ouais. Et puis, et quand nous referons-nous, qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend plus. Bon, ça s'est fait en 20 ans. Ça s'est fait dans l'indifférence absolue et générale de toutes les autorités qui, en France, sont censées contrôler la langue. J'ai cherché dans tous les livres, dans toutes les revues. Je n'ai vu nulle part dénoncer cette horreur. Et c'est une horreur, pourquoi? Parce qu'effectivement, si je vous dis « T'es où ?» ou « Où es-tu ?», vous allez constater que le message passe aussi bien. Hein ? On se revoit quand ? Et quand nous reverrons-nous, le message est aussi bien passé. Bien. Donc, mais, et ce qui est vrai, c'est que la forme barbare, « T'es où ?»« On se voit quand ?» permet de faire passer le message avec beaucoup moins de mots. C'est-à-dire que de passer de la langue littéraire française à ses formes, c'est transformer notre langue littéraire en langage de communication. Alors avec l'informatique, vous le savez, les ingénieurs ont dû apprendre à fabriquer des tas de langages de communication. Et bien évidemment, ce qui comptait, c'était l'efficacité de la communication. C'était de faire passer le message avec le moins de signes possible. D'accord ? Heureusement qu'ils l'ont fait. Mais le français, c'est pas ça. Le français, ça peut pas être ça. Et c'est monstrueux qu'on laisse le français oral dériver vers un langage de communication contraire à toute notre histoire dans l'indifférence absolue de toutes les académies, de toutes les délégations, de toutes les directions et de tous les gens de lettres autoproclamés qui sont censés contrôler ce langage. Je crois être, je suis vraiment le premier à dire qu'il faut cesser ça. Faut que nous, parce que vraiment, dans une langue, le mode interrogatif, enfin, une langue a un mode affirmatif, un mode interrogatif, un mode négatif, c'est constitutif. Seulement, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas de faute d'orthographe dans la nouvelle formule. T'es où ? Il n'y a pas de faute d'orthographe. Donc tout le monde s'en fout, c'est parfait. Car en France, la langue, tout le monde s'en fiche. Il n'y a que l'orthographe qui compte. Et je termine en disant, voyez, on imagine très bien le recruteur, pas. Lisant la lettre de motivation, toujours en manuscrit, parce qu'il y a des études graphologiques en France. Bon. Donc, et qui voit, il écrit profil avec un nœud. Et qui accueille son candidat en disant, pour pas qu'on perde de temps, je vous pose la première question, pour vous, le job, c'est quoi? Ça va très bien. Il n'a pas fait de faute d'orthographe. Et donc, c'est plus possible qu'on laisse le français oral, dériver vers ses horreurs et qu'on entretienne ces guérillas absurdes vis-à-vis de cet accessoire de la langue, accessoire respectable, mais accessoire tout de même, qui s'appelle l'orthographe. La syntaxe, c'est la colonne vertébrale et l'interrogatif, ça fait partie de cette colonne vertébrale. Voilà pourquoi j'ai voulu, pardonnez-moi, pousser un coup de gueule avant d'aborder le problème de l'orthographe.
Alors, le problème de l'orthographe, vous l'abordez sous divers angles. Vous l'abordez sous l'angle de la complexité extrême de l'orthographe française, de l'incohérence de cette orthographe, de l'absence de logique qui semble la régir. Vous l'abordez sous l'angle de votre relation personnelle avec l'orthographe et des difficultés qu'elle a pu vous causer dans votre vie. Vous l'abordez sous l'angle historique. Comment en est-on arrivé là? Et vous envisagez un certain nombre de remèdes. Et tout ça, d'ailleurs, je dois le dire, avec la caution d'un certain nombre de linguistes complètement éminents, puisque vous avez fait relire votre texte.
Tout ce texte a été relu par les plus grands des linguistes, parmi les plus grands linguistes français. C'est une enquête journalistique, oui, approfondie, 2 ans, mais le résultat a été contrôlé. C'est pas un monsieur qui lui-même n'est ni normalien, ni grammairien, ni linguiste, qui se permet de tirer ses conclusions. J'ai tout fait vérifier, certifier à la ligne.
Alors, est-ce qu'on pourrait aborder un peu chacun de ces aspects-là, mais évidemment, rapidement. Il faut laisser d'abord au public le plaisir de découvrir le livre, et puis notre temps est mesuré. Si on commençait par votre relation personnelle avec l'orthographe.
Si j'y ai fait allusion, c'est parce qu'elle est d'une banalité extrême. Je pense que, il se trouve, alors maintenant on le sait, c'est scientifiquement prouvé, s'agissant de l'orthographe lexicale. Hein, moi, j'ai jamais eu, je crois, de difficultés avec la grammaire ou avec le vocabulaire. Je connais le sens des mots et je sais comment on forme les phrases et je connais les accords. C'est avec la graphie des mots, proprement parlé, que j'ai eu des problèmes quand j'étais jeune, des problèmes d'ailleurs si graves qu'à 14 ans, on estimait que je pouvais pas faire d'études supérieures parce que j'avais pas un niveau en orthographe suffisant. C'est pas... On a passé, c'est pas grave. Mais, donc, je dis que j'ai toujours ce problème et qui est vraiment structurel dans le système orthographique français. Et mon exemple est d'une banalité extraordinaire. Quand j'étais jeune, il y avait autour de moi ma famille, ma mère, tout ça, mais enfin, c'est écrit comme ça, comment tu peux faire? J'étais horrifié et moi, je cherchais dans ma tête et je voyais pas. Par la suite, on apprend à maîtriser son orthographe. Bien évidemment qu'aujourd'hui, si je dois écrire sans faire de faute d'orthographe, je fais attention, je sais comment il faut faire et je ne ferai pas de faute d'orthographe. Mais j'ai toujours cette hantise que si je ne fais pas attention, oui, je peux faire ce genre de faute d'orthographe, un accent circonflexe, une consonne, un trait d'union, un pluriel de mots composés, trucs et machin. Oui, c'est vrai, je peux me prendre les pieds dans le tapis. Donc, je dis ça parce que je pense qu'il y a en France autant de gens qui ont ces problèmes que de conducteurs qui se sont fait une fois épingler et flasher en excès de vitesse. Hein. Seulement, si je demande, est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui se sont fait retirer, serait-ce qu'un point leur permis de conduire? Est-ce que, évidemment, vous n'hésiterez pas, vous, l'un, l'autre, à me dire oui. Mais si je dis, est-ce que vous voudriez venir à ma place pour expliquer que vous faites des fautes d'orthographe? Alors que statistiquement, il y a évidemment un certain nombre de gens dans cette assemblée qui font des fautes d'orthographe, personne ne voudra venir dire ici, dire oui, c'est vrai, je fais des fautes d'orthographe. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a le poids de la faute qui pèse sur l'orthographe. On verra pourquoi, on verra comment. C'est absolument fondamental. Il est évident que, et j'ai pris mon exemple, si je n'avais pas su, je n'avais pas été imprégné par l'idée que la faute d'orthographe est une abomination, qu'elle me dévalorise, qu'elle me fera honte, qu'elle me fera perdre la face, que c'est un comble de ridicule, je ne peux pas faire de faute d'orthographe. Si je n'avais pas été toute ma vie à me dire attention, attention, tu ne dois pas faire de faute d'orthographe, quelqu'un comme moi qui n'a pas la mémoire photographique ferait énormément d'erreurs. C'est ce qui se passait au XVIIIe siècle. Ben, au XVIIIe siècle, cette notion de faute n'existait pas. Alors, attention, elle existait dans l'imprimerie. Hein. Monsieur Diderot n'aurait pas accepté qu'il y ait des graphies incorrectes dans l'encyclopédie. Mais quand ce même Monsieur Diderot prenait sa plume et écrivait à Catherine de Russie ou je ne sais qui, il écrivait très librement. Quand il savait pas un mot, il l'écrivait n'importe comment. Quand il trouvait que l'écriture d'un mot lui plaisait pas, il l'écrivait autrement. Et puis voilà, ça allait comme ça. Puis, quand il n'y a pas d'erreur, avec une orthographe compliquée, les fautes se multiplient. Quand il y a ce poids effrayant de l'erreur, évidemment, on évite les fautes. Donc retenez ça, l'orthographe et l'erreur, c'est les deux faces d'une même médaille. Et le système orthographique français tient par le poids de la faute, de la faute. Et c'est à cause de ça que, j'ai dit dominer, surmonter ma dysorthographie juvénile. Et c'est l'histoire de, je vous dis, de millions et de millions de Français qui sont tellement accablés par ce poids qu'ils n'osent même pas le dire. Moi, depuis que j'ai publié ce livre, combien de personnes viennent dire « Ah ben alors, vous pouvez le dire, oh là là, l'orthographe toute ma vie, oh l'orthographe !» Rien au monde, il ne l'aurait dit, il l'aurait avoué. Et quand je raconte cette histoire quand même très banale, on dit, mais il fait son... Vous savez qu'on ne fait plus de confession, on ne fait plus d'aveu, on fait des outing. Ah, il fait son outing. Donc, tout simplement parce que j'ai dit ce qui, l'expérience vécue d'une part très importante de la population française. Je ne sais pas si c'est la moitié, un peu plus, un peu moins, mais c'est de cet ordre. Donc, vous voyez, déjà là, on voit quand même des bizarreries. Hein. Pourquoi il n'y a qu'en France qu'il y a cette notion de faute. Hein. Partout ailleurs, il y a des erreurs que l'on peut faire en orthographe, en français, en histoire, en calcul, etc. Et en France, il y a la faute. Il n'y a rien à voir, parce qu'en revanche, si je demandais est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des difficultés en mathématiques à l'école, je verrais immédiatement la moitié des mains se lever sans aucune chaîne. Donc, c'est spécifique.
Vous êtes sûr que vous ne dramatisez pas un peu la chose ? Vous êtes sûr que ce soit vraiment une culpabilité aussi lourde que cela ? Vous êtes sûr que ce soit un facteur de discrimination et de sanction si pesant que vous le dites et que vous venez de le dire, d'ailleurs ?
Attention, je vais bien préciser que c'est plus vrai depuis 20 ans, et c'est pour ça que notre niveau d'orthographe s'effondre. On ne peut plus apprendre l'orthographe parce que le système de la faute ne marche plus. On verra ça comment. Mais historiquement, faut pas oublier que le certificat d'études n'était qu'une dictée. Et que Dieu sait qu'au 19e siècle, jusqu'au milieu du 20e, le certificat d'études a été discriminant. Il ne faut pas oublier les 5 fautes obligatoires, éliminatoires. Je vous dis, moi j'ai failli en être victime. Hein, si ma mère n'avait pas refusé absolument qu'on me mette en série technique, je ne pouvais pas faire d'études supérieures. Bon. Donc, tous les concours de la fonction publique passaient par une dictée, souvent très difficile. Je vous signale que dans les années 80, l'administration de l'hôpital public, l'assistance publique, ne pouvait plus recruter les assistantes infirmières, ce qu'ils appelaient élégamment les filles de salle, parce qu'il fallait qu'elles passent une dictée et qu'il n'y avait pas assez de candidates qui avaient le niveau de dictée suffisant. Je signale que dans les cliniques privées, pour les mêmes conditions, il y avait des personnes qui étaient aussi compétentes, aussi dévouées, auxquelles on n'avait pas demandé de faire une dictée. Je vous signale, je parlais récemment à un de nos académiciens les plus ouverts sur la question, qui est Éric Orsonna, Dieu sait ouvert, et qui me disait, moi, si je vois une faute dans une lettre qu'on m'envoie, c'est comme si on m'avait fait une impolitesse, comme si on m'avait claqué la porte au nez, c'est une goujaterie, je suis outré. Bon, oui. Et c'est un homme extrêmement ouvert, hein, Éric est pas du tout... Et donc, cette pression sociale à travers l'orthographe, non, ça a toujours été une réalité. La faute d'orthographe n'est pas une faute de savoir, c'est une faute de savoir-vivre. Celui qui fait, laisse passer une faute d'orthographe, il ne sait pas vivre, il manque d'éducation, il n'est pas fréquentable. Non, c'est comme ça que notre système a marché.
Alors là, la complexité extrême de cette langue, qui n'aurait pas d'ailleurs d'égal dans les autres langues européennes en tout cas, cette complexité, on peut en définir les principaux traits.
C'est très simple, elle a été héritée de l'histoire. Notre langue issue du latin s'est beaucoup germanisée, contrairement aux langues méditerranéennes. Donc quand il a fallu l'écrire, parce qu'au départ c'est une langue orale, une langue romane, quand il faut l'écrire à partir du Xe siècle, elle a énormément de sons, il faut un alphabet hein, pour écrire. Finalement, on ne peut pas réinventer un alphabet alors qu'on a l'alphabet souverain sous la main, l'alphabet latin avec ses 22 lettres. Seulement l'alphabet latin, il a été fait pour écrire le latin. Et là, dans cette langue, il y a trois fois plus de sons élémentaires et qui ne correspondent pas aux lettres de l'alphabet latin. Donc il va falloir déjà tripatouiller d'une façon extraordinaire les lettres, les diphtongues, trucs et machins, pour essayer de faire rendre ces sons par des lettres qui n'ont pas, ne correspondent pas à ces sons. Ensuite, il y a des scribes latinistes dans les siècles suivants qui, pour respecter la filiation latine, vont farcir ces lettres de consonnes et de consonnes muettes in memoriam, pour bien dire, vous voyez, ça vient du latin. En latin, il y avait, et on met un nombre incroyable de consonnes, si bien que le français, l'orthographe qui émerge au XVe siècle, est d'une complexité inimaginable, surchargée, farci de consonnes, on s'en sort plus, c'est vraiment une langue purement idéographique. Et tout de suite, dès que cette langue devient une langue littéraire, elle est prise par les premiers auteurs de la Pléiade, etc., Ronsard en tête, ils n'ont qu'une idée, il faut simplifier cette orthographe, il faut moderniser tout ça. Et tous les grands écrivains, tous les Molières, tous les Corneille, tous les La Fontaine, Bossuet, etc., vont être aux premières loges pour dire il faut simplifier, mais pour l'essentiel, cette écriture est pratiquée par toute une bureaucratie de scribes, scribes de judiciaires et autres, qui eux tiennent à ne rien changer. Et donc les changements se font, mais se font difficilement, jusqu'à la Révolution, cette langue, cette orthographe se simplifie tout de même un peu, mais on arrive à la Révolution. Et là, c'est le grand changement, puisqu'on veut faire l'unité de la nation sur la langue et sur le français, qui est à l'époque parlé par une petite minorité de français. Et ce que l'on veut surtout, à partir de la monarchie de Juillet, c'est que cette langue soit écrite, et soit écrite par toute la population. Et donc, sous la monarchie de Juillet, l'État met fin à la licence orthographique qui existait au XVIIIe siècle, dit désormais l'orthographe, c'est l'orthographe de l'édition de 1835 du dictionnaire académique, et tout ce qui n'est pas conforme est une faute, et sera sanctionné lors des concours pour le recrutement de la fonction publique. Il n'y a plus d'usage, il faut respecter la norme. Et il se trouve que cette orthographe est donc quand même extrêmement compliquée. C'est une orthographe de scribes, et les Français, eux, ils sont illettrés. Alors, comment fait-on pour faire d'un peuple illettré un peuple de scribes? Eh bien, il n'y a pas de problème. Il faut sacraliser l'orthographe et donc diaboliser toute faute. Et donc, on a mobilisé tout un peuple pour maîtriser cette orthographe. Et vous voyez que dès lors qu'on ne simplifiait pas cette orthographe, il fallait la sacraliser et diaboliser tout ce qui ne la respectait pas. Et c'est comme ça qu'on a réussi cette chose incroyable à faire que cette orthographe très compliquée soit effectivement maîtrisée. Enfin, on dit par tous les Français, pas exagéré, tous les Français ne passaient pas loin de là leur certificat d'études, etc. Mais tout de même, dans l'ensemble, il y a eu une maîtrise remarquable de cette orthographe. Cette orthographe, donc, elle est compliquée pour les raisons que je vous ai dites sur le plan de l'écriture des mots, un peu comme l'anglais d'ailleurs. Elle l'est en plus sur la grammaire parce qu'elle a de très nombreux accords, et beaucoup plus que par exemple dans l'anglais, mais que surtout ces accords sont muets. Il faut bien comprendre que lorsqu'un accord grammatical s'entend, il ne présente aucune difficulté. Enfin, vous n'allez pas écrire des travails. Vous avez entendu tout le temps, dès votre jeunesse, écrire des travaux, vous écrirez des travaux, un travail des travaux, ça ne vous pose aucun problème. Mais un marmatué, il n'y a pas de faute à l'oral, ça ne s'entend pas. Il n'y a qu'à l'écrit qu'il faut recalculer pour savoir comment on écrit tuer. Donc, le français, à cause de ces deux difficultés, d'une grammaire omniprésente et muette et de graphie assez biscornue, est effectivement très difficile. Et donc, on a pu relever ce défi de la langue de scribe pour un peuple d'illettrés qu'en sacralisant à travers cette notion de faute, 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 faute. Si vous ne respectez pas l'orthographe, vous faites des fautes, et si vous faites des fautes, vous êtes éliminé, vous, etc. Moyennant quoi, tous les Français, comme moi, ils ont appris l'orthographe. Mais si la faute disparaît, le système ne tient plus. Et la faute, elle a disparu depuis 20 ans.
Cette sacralisation intervient quand exactement à vos yeux ?
Mais elle intervient en 1835 et tout au long du 19e siècle. Et dès que Jules Ferry met en place l'école laïque obligatoire, les hommes qui font vraiment le travail autour de Jules Ferry, comme Ferdinand Bouillon, qui sont vraiment les hommes qui ont créé l'école publique en France et l'instruction publique, ils sont effarés par la place qu'a pris l'orthographe. Pourquoi ? Et parce que les instituteurs, au début du siècle, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas écrire, ils savaient que lire. Et on les a obligés à apprendre l'orthographe, ce n'est pas facile. Et toute leur légitimité, toute leur fierté, c'est de savoir l'orthographe, et donc de l'apprendre. Et donc, l'école primaire n'est plus qu'une école de l'orthographe. Et Jules Ferry et les autres, ses collaborateurs, sont effarés, disent tout de même, il faudrait leur apprendre quelque chose, un peu d'autre chose à ces petits, il faudrait leur apprendre le français, il faudrait leur apprendre la littérature, il faudrait leur apprendre à raisonner. Et ils ont beau faire, pendant 15 ans, ils se battront pour dire, s'il vous plaît, pas que l'orthographe, ils ne pourront rien. Ce sera l'orthographe, l'orthographe, l'orthographe. Et il y aura tout au long du 19e siècle des batailles pour essayer d'obtenir certaines simplifications, toujours des simplifications à la marge, on ne réécrit pas le français, et ce sera toujours le bloc des enseignants et des conservateurs, pour dire un cours, qui feront échouer, et donc on ne pourra plus jamais changer l'orthographe.
Est-ce qu'il est impossible d'imaginer que la langue fonctionne à deux niveaux ? Qu'il y ait un fonctionnement de la langue française à l'oral et un fonctionnement différent à l'écrit, et que ce qui a existé au début, c'est-à-dire la langue écrite et la transcription phonétique de l'oral, ceci n'existe plus, et que nous ayons une langue écrite qui a un fonctionnement idéographique, comme d'autres langues.
Non, c'est-à-dire, je pense d'abord, n'est-ce pas, vous voyez, le 18e siècle, il y avait deux niveaux d'orthographe, hein. Le niveau professionnel et le niveau privé. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en 1835, quand on dit ici qu'on ne simplifiera pas l'orthographe et que l'orthographe compliquée devra devenir celle de tout un peuple, on dit aussi que ce peuple devra satisfaire des exigences qu'au XVIIIe siècle, on exigeait que des correcteurs d'imprimerie. Mais c'est quand même... et cette exigence forte a subsisté jusqu'aujourd'hui. Alors pourquoi aujourd'hui, depuis 20 ans, l'étude, tout le monde le voit, il y a des études très précises, depuis les années 90, le niveau d'orthographe ne baisse plus, il s'effondre. Et c'est irréversible. Pourquoi ? parce que, et je vais répondre mais, à votre question, mais il faut voir que ce n'est pas une volonté. Il faut d'abord constater ce qui se passe. Depuis 20 ans, est apparue l'écriture électronique à travers les SMS, à travers les ordinateurs, Internet, etc. Et cette écriture, c'est de loin la plus grande révolution depuis l'invention de l'écriture, plus importante même que l'imprimerie. Pourquoi ? Parce qu'on a inventé l'écriture pour cette fonction essentielle de conserver le verbe, pour une fonction conservatoire et testimoniale. C'est écrit, ça reste. Les paroles, hein, ça passe. De ce fait, le langage écrit répondait à une exigence supérieure que le langage oral, à cause de cette fonction supérieure. Et maintenant, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quand un jeune envoie un texto, vous croyez qu'il élabore un texte ? Quand un jeune discute, envoie, échange des courriels et sur un forum, discute, ils écrivent tout le temps, beaucoup plus que nous. Mais vous voyez bien que cette écriture, mais c'est plus l'écriture. Elle ne vise pas du tout à établir des textes qui resteront, qui feront foi, etc. C'est de la conversation. La conversation par écrit. Et donc, nous utilisons désormais l'écrit au niveau de l'oral, pour les mêmes fonctions. Et donc, on a les jeunes qui, en permanence, sont dans l'écriture électronique, tout naturellement, ont banalisé l'écrit au niveau de l'oral, puisqu'ils écrivent, ils utilisent l'écriture comme la parole. Et que cette sacralisation qui pour nous allait de soi, étant donné que l'écriture s'était tout de même réservée à une fonction beaucoup plus noble que la parole. Mais c'est fini et c'est irréversible. Et si vous ajoutez qu'ils ont des correcteurs, ils le savent, sur leur ordinateur et qui s'imaginent que puisque les correcteurs savent l'orthographe, c'est quand même plus la peine de s'embêter à l'apprendre. On n'a plus appris à faire les opérations quand on a eu les calculettes. Pourquoi on va se casser les pieds à apprendre l'orthographe alors qu'il y a la machine qui connaît l'orthographe ? Si vous ajoutez le massacre permanent ludique dans le langage SMS, le massacre des graphies, contrairement, il ne faut pas vous affoler. Hein. Les jeunes ne sont pas des sauvages et ils n'écriront pas demain le français en langage SMS. Hein. Ce n'est pas vrai. C'est une notation intergénérationnelle. Ce n'est pas grave, c'est très bien, c'est ludique. Simplement, quand toute la jeunesse, on a massacré dans tous les sens les graphies et qu'ensuite on vous dit « Attention, petit malheureux, ne te trompe jamais d'un accent, ce serait terrible, ils ne comprennent pas. » C'est-à-dire que l'écriture électronique a fait disparaître la notion de fraude, de faute, et de fait, aujourd'hui, il y a une fracture générationnelle. Les plus de 60 ans sont toujours horrifiés quand ils voient une faute, et les plus de 30 ans, pour eux, il n'y a que des erreurs. Et au moment où il n'y a plus de faute et il y a des erreurs, elles pullulent et elles se multiplient. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on ne peut plus apprendre l'orthographe. Comme on l'apprenait aux jeunes générations, il faut trouver autre chose. Et que c'est pousser les professeurs au désespoir, leur dire « Vous n'avez qu'à leur refaire ce qu'on faisait autrefois ». Autrefois, ce n'était pas les mêmes enfants. Ce n'était pas des enfants qui, sitôt qu'ils quittaient l'école, où ils écrivent en manuscrit, font des dictées, etc., ils se retrouvent devant un ordinateur pour écrire sur écran, en écriture assistée informatiquement. Ce n'est pas la même chose. Il y a quand même un moment où il faut que l'école ressemble à la réalité. C'est très dangereux quand l'écriture académique n'a plus rien à voir avec l'écriture pratiquée, celle que ces enfants pratiqueront toute leur vie, car ils n'écriront plus jamais autrement que sur ordinateur. Vous savez très bien que l'écriture manuscrite, hein, est appelée à se réduire comme peau de chagrin. Elle fera quelques pourcents de l'ensemble de ce que ces enfants écriront toute leur vie, et pourtant on continue à prétendre leur apprendre l'écriture et l'orthographe uniquement manuscrite, en sachant que ce n'est pas l'écriture qu'ils pratiqueront toute leur vie. Et là, quand je vous dis qu'il y a cette résistance minérale, viscérale de la France au progrès, c'est pour moi l'exemple le plus évident. Quand je dis ça, qui me paraît de bon sens tout de même, au monde enseignant, enfin à l'éducation nationale, parce que la plupart des professeurs sont convaincus que c'est une folie. Hein, je leur dis, vous n'avez pas l'impression qu'on ne peut pas apprendre l'orthographe du 19e siècle à des jeunes qui vont pratiquer l'orthographe du 21e. Il faudrait quand même essayer, et plutôt que de considérer l'ordinateur et le correcteur comme des ennemis, pourquoi ne pas s'en faire des alliés ? Il est évident d'autant, c'est d'autant plus évident que le correcteur, si vous ne connaissez pas l'orthographe, il ne sert à rien, et si vous n'allez pas vous en servir, c'est pire que si vous n'en aviez pas. L'orthographe, le correcteur appelle le professeur de français, il n'y a que... S'il est branché, si je puis dire, sur l'enseignement du français et de l'orthographe, qu'il pourra par la suite remplir cette fonction, je dirais, de veille orthographique, qui fait que celui qui n'est pas toujours sûr de son orthographe, clac, il est alerté par le correcteur, et à ce moment-là, parce que le correcteur ne corrige pas, dit « Ah, j'ai l'impression que ce ne serait pas plutôt ça ». Et celui qui aurait eu tendance à faire, bon, il réfléchit « Ah oui !» Mais il est évident que si vous ne savez pas vous-même l'orthographe et le français, les remarques du correcteur ne vous servent à peu près à rien. Bon, donc voilà, simplement, tout ce que je dis, je précise, contrairement à ce qu'on me fait dire, je pense que, hélas, le temps des réformes est dépassé et qu'il n'est plus question, de mon point de vue, de faire une nouvelle simplification de l'orthographe, puisque partout où je vois, on me dit « Ah, vous voulez une simplification de l'orthographe ?» Je dis « J'aurais voulu, mais je pense que maintenant, c'est fini. »
On va revenir dans une seconde au mérite supposé du correcteur automatique. Parlons un tout petit peu des réformes, justement, puisque vous dites « bon, ça n'est plus possible, il n'y aura pas de réforme, etc. » Or, je vous cite, « la réforme permanente est inscrite dans l'histoire du français. » et toute l'histoire du français, en effet.
Jusqu'en 1835.
Et non, et plus récemment, puisque quand même, vous consacrez des pages assez longues à la réforme de 1990, n'est-ce pas ? Des pages longues et savoureuses, parce que ça a été quand même quelque chose.
Hein.
On peut parler belle un peu histoire. Au moins de cette réforme-là.
Ouais. Oui, c'est tout à fait extravagant, parce que il faut bien comprendre qu'à partir des années 50, la linguistique arrive vraiment en France et s'empare du français, et le français devient un véritable objet d'études scientifiques avec des équipes, des laboratoires, etc. Et tous les gens qui étudient l'histoire du français, le fonctionnement de la langue, l'utilisation sociale de la langue, arrivent à la même conclusion. C'est idiot, il faut simplifier cette orthographe. Et donc, ces équipes linguistiques, dans les années 80, prépare une réforme, mais ils sont très conscients qu'il faut y aller sur la pointe des pieds. Hein, vous ne pouvez pas chambouler les habitudes orthographiques. Tous les gens se braquent, et c'est normal. Donc, il faut faire toujours ça à la marge. Alors, ce qu'il faut faire, c'est voir ce qu'il y a d'anormal dans l'orthographe française. Ce qu'il y a d'anormal, c'est que des gens qui maîtrisent cette langue, des gens qui ont fait des études supérieures, vont encore faire des fautes d'orthographe. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des textes, par exemple des communications envoyées à des revues savantes, par exemple des scénarios, des manuscrits, etc. Donc des choses qui sont écrites par des gens qui maîtrisent bien la langue française, ils savent l'écrire, pas de problème. Ils ont regardé où se faisaient les fautes. Et ils se sont dit, c'est là que l'orthographe est en faute, parce que des gens à ce niveau ne devraient plus faire de fautes. Et s'ils font des fautes, c'est probablement qu'il y a des choses trappes, avec ou sans de paix, qui déroutent les gens. Et il faudrait peut-être faire des rectifications sur ces points-là. Donc ils ont cherché où on pouvait intervenir discrètement en étant utile. Bon, ils ont vu que beaucoup de fautes correspondaient à des accents circonflexes, et que d'un autre côté, beaucoup d'accents circonflexes ne correspondent absolument plus à rien. Ils ont vu les traits d'union, les redoublements de consonnes, et donc ils ont... Mais ils se sont dit, il ne faut surtout pas intervenir de façon autoritaire. Et donc, c'était sous le gouvernement Rocard. Il a été décidé de publier simplement au journal officiel des documents, pas des lois et décrets, un texte, un rapport, suggérant des rectifications qui n'étaient pas imposées. Les graphies anciennes restaient bonnes. Vous pouvez toujours écrire ping-pong avec un trait d'union, mais désormais, il est admis de souder le ping et le pong. Bah. Et donc, on dit, on fait simplement des variantes, des alternatives, et puis peu à peu l'usage choisira. Voilà la réforme qui est annoncée. Vous voyez, c'est même pas une réforme, c'est une extrême prudence. Et aussitôt, il y a eu une levée de boucliers de tous les gens de lettres. Mais quand même, les linguistes ont réussi à faire ce qui est en France toujours un miracle, c'est l'union nationale, c'est-à-dire de l'extrême droite à l'extrême gauche en politique, tous les gens sont mis, quelle honte, on veut dégrader la langue française. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Enfin, quand on entendait un gendarme Messon venir expliquer à la télévision, rendez-vous compte, on ne pourra plus lire les grands auteurs classiques dans le texte d'origine. Alors qu'évidemment, vous n'avez jamais lu le Misanthrope de Molière sans PH, parce que vous ne l'avez jamais lu dans le texte d'origine. Vous n'avez jamais lu La Fontaine dans le texte d'origine. Tous les classiques, vous les lisez en langage du XXe siècle, c'est-à-dire retranscrit en langage du XXe siècle. Et donc finalement, la réforme qui a été acceptée dans les pays francophones, comme le Québec, en Suisse romande, etc., est restée bloquée en France. Et alors, pour qu'on puisse se faire une idée de ce qu'a été l'enjeu de cette réforme et de ce qu'étaient les résistances, l'objet de ces résistances, dans ce livre, voyez-vous, si vous voulez me le passer une seconde, c'est le premier livre, je crois, on n'a jamais fait ça, où vous avez donc le début, qui tout ça, c'est dans l'orthographe traditionnelle. Et après que je raconte toute cette bataille, je dis, ben maintenant, pour que vous vous rendiez compte, à partir de maintenant, c'est en orthographe rectifiée. Voilà donc ce qu'était l'enjeu de cette bataille. Vous pourrez en juger par vous-même. Alors, je vous signale, bien sûr, vous allez voir toutes sortes de mots, connaître, sans accent,
connaître, sans accent circonflexe, etc. Dans tout à fait la dernière page, goûter, sans accent circonflexe.
Ben oui, le goût a perdu son chapeau.
Goûter, sans accent.
Et donc, je vous signale...
Mais on sursaute, je vous signale qu'on sursaute.
Bon, mais... Et effectivement, il faut bien comprendre une chose. C'est que, d'abord... Dans la langue, il y a le pôle oral et le pôle écrit, et le pôle écrit est forcément le pôle de la fixité, d'en donner la fonction historique de l'écrit. Deuxièmement, quand des gens ont appris à écrire, et tous autant que nous sommes, nous supportons très mal qu'on nous dise « bon, ben maintenant on n'écrit plus comme ça, il faut écrire autrement », on supporte très mal. Et donc, c'est pourquoi les linguistes étaient conscients qu'on ne pouvait faire que de petits changements. Il ne peut pas être question. Et c'est pourquoi je dis que la simplification de l'orthographe devait se faire en 10 réformes sur 150 ans. Elle ne peut pas se faire d'un coup, ce n'est pas possible. On éprouve un véritable traumatisme. Mais je vous dirais que la réforme de la simplification orthographique, c'est un cadeau que font les gens qui savent écrire à ceux qui vont apprendre à écrire, c'est-à-dire aux prochaines générations et éventuellement aux étrangers. Et je regrette qu'en France, depuis toujours, les générations qui savent écrire ne se soient jamais souciées, aient eu un peu l'attitude des anciens combattants, on a fait la guerre, eh bien ils feront la suivante, plutôt que de dire après tout, on a eu du mal, si on peut réduire ces difficultés, pourquoi pas ? Et le comble du paradoxe, c'est que plus une langue est difficile, plus elle a demandé d'efforts aux gens pour maîtriser, plus une écriture est difficile, et plus les gens y sont attachés, et moins ils sont disposés à accepter qu'on y retouche. C'est-à-dire que plus la réforme est nécessaire, et plus elle est difficile à réaliser. Et je vous signale qu'en Allemagne, où ils ont quand même aussi un problème d'orthographe, depuis 50 ans, ils se battent avec une réforme de l'orthographe dont on ne sait pas finalement si elle aboutira. C'est extrêmement compliqué. Les Américains ne se posent pas de problème. Ils sont un peu revenus à un 18e siècle façon du Far West. Et quand ils trouvent des orthographes trop compliqués, eh bien, ils changent les orthographes. Et peu à peu, l'usage, quantité de mots change. C'est une sorte de réforme phonétique sauvage. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Je pense qu'il faut mieux quand même rectifier et réfléchir avant de changer la façon d'écrire les mots.
Il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Vous dites que vous parlez longuement des Dico d'or, de la dictée de Pivot, du succès que ça a auprès des Français, et vous analysez cet attachement du français à l'orthographe telle qu'elle est, et les résistances que ça peut entraîner quand il s'agit de la modifier. Vous citez une phrase de... je vous lis tout simplement. Claude Weil a proposé dans le Nouvel Observateur du 20 décembre 1990 une explication très subtile de cet attachement à des graphies bizarres, absurdes, anormales. Alors, citation de Claude Weil. Le français, justement, tient à ses anomalies comme à des droits, comme à ses droits acquis. L'anomalie, c'est le pied de nez à la règle, une manière de dire merde à l'autorité, un espace de liberté. De même que le français est foncièrement égalitariste, mais adore les privilèges et les passe-droits, de même il voue un culte lunaire aux bizarreries de la langue française. Ce qu'il aime dans la règle, c'est l'exception. C'est un bon texte.
Ah, mais c'est un très beau texte et je trouve qu'il y a beaucoup de choses très subtiles que dit Claude Weil à travers tout ça. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez vu comme je suis braqué vent debout contre cette évolution du français vers le langage de la communication en fonction d'une efficacité supérieure de logique de communication. Je suis tout à fait contre. Et d'un autre côté, j'apprécie moi aussi que dans le français, il y ait des tas de bizarreries. Et dans les graphies. Alors, j'ai l'air d'être un peu contradictoire.
Oui.
Alors, je vais m'expliquer. Il y a, je sais pas, 1 000, 2 000 mots, 4 000 mots qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. En sorte que même un bonhomme comme moi, qui suis incapable d'imprimer mon dictionnaire mental, bon, je les vois tout le temps, ça me gêne pas. Qu'est-ce que je veux dire? Vous prenez par exemple fin. Mais qu'est-ce que fait ce G dans fin? Alors on dit, ah, vicenti en latin. Et trigenti, où est le G de 30? Donc, 20 avec un G, c'est une aberration. Mais le monde connaît 20. Ah. Pourquoi nous embêter à vouloir supprimer le G alors que, bon, c'est une bizarrerie, mais comme tout le monde le connaît, ça ne nous demande aucun effort. Et puis on l'aime comme ça. Bon, pourquoi on se met un Z au bout du nez? C'est complètement idiot. Mais qui ne sait qu'on écrit nez avec un Z? Hein? Pourquoi écrire femme avec un nœud et pas avec un A comme dame? C'est évidemment idiot. Mais tout le monde sait qu'on écrit femme comme ça. Bon, on va pas changer. Donc, je suis pour qu'on garde. Et je pense que personne ne peut penser à changer toutes ces anomalies de graphie dans ce corpus de mots vraiment usuels que nous manipulons tout le temps. Le problème, c'est quand nous arrivons à des mots un peu moins fréquents et où on peut être piégé par toutes ces anomalies. Et là, alors, ou bien vous avez les gens qui, comme les gens des décodeurs, moi j'aime beaucoup la compétition des décodeurs, ils jouent avec, ça leur fait plaisir, mais c'est en tant que jeu de société. Attention, le décodeur, ça ne visait pas à éliminer de la fonction publique les dysorthographiques. C'était un jeu. Et en tant que jeu, je suis tout à fait d'accord. Simplement, il faut savoir aussi qu'une langue, c'est pas seulement un jeu de société. Qu'une langue, c'est pas seulement un outil pour les littérateurs. Une langue, c'est d'abord le premier instrument de communication entre les hommes. Une langue, ça doit servir à rapprocher les hommes, à se comprendre, à communiquer. Et c'est la fonction notamment de la langue écrite. Alors ce que je n'aime pas, c'est qu'on dissémine, qu'on ait laissé disséminer dans cette langue écrite des tas d'anomalies qui donc ne peuvent plus qu'être retenues, ne peuvent pas, quelque effort que l'on fasse, on ne peut pas, si vous n'avez pas la mémoire photographique, vous serez toujours en état d'insécurité orthographique. Et donc, à cause, justement, de ces anomalies. Et ce qui me déplaît, c'est qu'on, d'un côté, on en vienne, et principalement pour certaines personnes qui ont cette orthographe absolue, comme on parle de l'oreille absolue, et qui corrige avant de lire. Tout de suite. T'as vu ? C'est pas possible. Eh ben alors, et on ne lit pas. On corrige avant de lire. Et donc, la langue écrite sert à distinguer. Oh, c'est un grossier personnage. Ah, c'est quelqu'un de très bien. Uniquement parce qu'on a laissé traîner des fausses notes dans la symphonie de la grammaire et qui permettent de distinguer ceux qui ont l'oreille absolue de ceux qui écoutent la mélodie sans entendre la fausse note. Et là, c'est une perversion de la fonction profonde de la langue. La langue, c'est pas ça. La langue, ça sert pas à se piéger les uns les autres, ça sert à se comprendre et à se rapprocher. Et donc, voyez-vous, il y a un usage sympathique de la complexité orthographique qui est celui des dictées, des dicodeurs. Il y a un usage moins sympathique qui est celui qui consiste à relever et à fustiger les délinquants et contrevenants, étant entendu, je vous le répète, que malheureusement, ça a été le prix à payer pour le refus de la simplification de notre langue.
Je fais juste une dernière remarque et je donne la parole au public qui, certainement, sur un sujet comme celui-là, si l'on croit que c'est une passion française, a des questions à vous poser. Une remarque d'abord, quand même, quand vous dites 20, que vient faire ce G-là, bon, je l'accepte parce qu'il fait partie du visage de mots, vous le dites vous-même à maintes reprises, il y a quand même des orthographes prétendument excentriques, qui ont une fonction très précise, qui est de distinguer les homophobes. Et le G de les homophobes, les homophones, les homophones, ça existe aussi. Et les homographes. Mais là, en l'occurrence, les homophones. Et 20 avec un G, c'est pour le distinguer du passé simple du verbe venir.
Quand vous prenez
l'exemple de fainéant. Vous dites, fainéant, ça peut s'écrire de 5 ou 6 façons. Alors, F-A-I-N-E, accent aigu, A-N-T, ou F-E-I-G-N-A-N-T. Mais fainéant, F-E-I-G-N-A-N-T, c'est le passé simple du verbe feindre, n'est-ce pas? Bon, alors, c'est pour ça que ça existe dans la langue.
Si ce n'est que nous avons quantité de mots différents qu'ils écrivent rigoureusement de la même façon. Vous comprenez, et ça ne nous gêne pas. Et c'est d'ailleurs très curieux. Vous voyez, par exemple, le latin distinguait laudare de locare. Et nous avons fait louer, avec les deux sens. Est-ce que vous vous trompez jamais entre le seigneur et votre locataire? Jamais. Alors que, évidemment, on devrait avoir le sens immobilier de louer et le sens religieux.
Écoutez, si vous dites « il ne cesse de louer son appartement », eh bien, vous ne savez pas si ça veut dire « il ne cesse de dire du bien de son appartement » ou « il ne cesse de le mettre en location ».
Donc, vous voyez, effectivement, je ne l'avais pas pris dans ce sens, vous avez tout à fait raison, et nous nous accommodons, donc, de toutes sortes, parce que...
Il faudrait bien avoir deux mots.
Oui, et quand je vous dis quel temps fait-il, vous ne me donnez pas l'heure, vous me dites qu'il fait chaud ou froid. Vous ne me dites pas il est 6h30. Bon, les Anglais ont time and weather. Hein? Donc, je veux bien qu'on me dise si on écrivait 20... ça se confondrait avec le verbe venir.
Vous comprenez, c'est comme ça qu'on vous dit,
mais bien sûr, vous comprenez, alors on en vient à mettre l'accent sur du verbe devoir, et puis, mais comme quand on dit indu, comme il n'y a pas le du, etc., on fait sauter l'accent, on complique encore plus sous prétexte de vouloir simplifier avec, je pense que honnêtement, on pourrait très bien simplifier sans créer. Alors si on voit à l'usage que se crée de la confusion, la première règle d'un langage, c'est d'être à la compréhension, bien sûr. Et à ce moment-là, bon, il faut remettre des complications. Mais vous savez, il y a là, quand on voit les crises d'hystérie qu'il y a eu sur le par exemple, l'accent circonflexe, moi, si quelqu'un dans la salle peut se lever et me faire entendre la différence entre théâtre et pédiatre, entre chaîne et haine, entre huche et bûche, pour que j'entende bien pourquoi dans un cas il y a l'accent circonflexe et dans l'autre il n'y a pas, si l'un d'entre vous veut essayer qu'il vienne à ce micro. Mais vous savez très bien que c'est pas vrai. Donc, y a un moment où il y a ces stèles mémorielles qui traînent dans nos graphies. C'est pas indispensable. En revanche, quand le son marqué par l'accent circonflexe est différent, à ce moment-là, il faut garder l'accent circonflexe. Quand il a une fonction diacritique précise, il faut l'utiliser. Quand il n'est là qu'en survivance d'un chapeau oublié là au porte-manteau, je pense qu'on peut l'éliminer, quoi. Mais de toute façon, ça n'est pas ça une nouvelle réforme, puisque c'est les rectifications de 90. Je pense qu'il n'est plus temps d'essayer de faire une réforme de l'orthographe, que ce n'est pas comme ça qu'on peut répondre à la crise actuelle, car la crise actuelle se va au rythme des années et les réformes vont au rythme des décennies.
J'avais dit une dernière chose, alors c'était l'avant-dernière. Le correcteur automatique de l'ordinateur, enfin, je veux bien, mais il faudra qu'on lui fasse faire beaucoup de progrès. Hein, et qu'on l'améliore. Parce que vous-même, vous écrivez, de récentes études ont montré que des logiciels actuels envoient encore, en moyenne, 1 à 10 fausses alertes sur une page de huis clos ou de l'étranger. Quant aux lettrés qui affectionnent les périodes proustiennes, il fera carillonner la machine à tout bout de champ avec ses principales, ses subordonnées et ses incidentes. Or, chaque fois qu'il y a eu une réforme ou une tentative de réforme de l'orthographe, évidemment, les lettrés, mais même le corps enseignant, a dit que ça va couper les lecteurs de toute une culture classique auquel ils n'auront plus accès. Eh bien, bon, le logiciel risque d'avoir le même effet.
Je pense que le logiciel, le correcteur d'orthographe, aura un effet encore bien pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Il aura un effet bien pire, d'abord, je vous dis, parce qu'il donne l'illusion aux jeunes qu'il peut apprendre l'orthographe et qu'il n'a pas plus de raison d'apprendre l'orthographe dès lors qu'il l'écrira toujours sous assistance informatique, qu'il n'a de raison d'apprendre à faire les opérations dès lors qu'il aura toujours une calculette. Donc, si on continue à laisser les jeunes en tête à tête avec des correcteurs, parce qu'il faut tout de même se regarder les choses en face. Les jeunes, dès qu'ils ont quitté l'école, ils se retrouvent devant un ordinateur, un clavier, un écran et un correcteur. Les jeunes vivent plus longtemps face avec des correcteurs qu'avec des professeurs. OK ? Et ce sera toute leur vie comme ça. Donc, les correcteurs d'orthographe ayant les limites que vous dites et qui sont évidentes et bien connues. Si on n'explique pas clairement aux jeunes ce qu'est un correcteur. Un correcteur implique un utilisateur qui connaît l'orthographe. C'est la règle première. Et le correcteur, en aucun cas, n'apprendra l'orthographe ni quoi que ce soit. Le correcteur est là en veille pour dire « là, il y a quelque chose, j'ai l'impression ». Et il n'est pas sûr. Il vous dit, est-ce qu'il ne faudrait pas écrire comme ci, comme ci, comme ça, vous voyez hein. Tout ce qu'il fait, c'est la vigie. Mais à partir de là, si vous ne savez pas interpréter son alerte, qui peut être tout à fait fausse, qui peut au contraire être valable, mais dans un autre cas, bon, bref, si vous ne savez pas l'interpréter, eh bien, ça ne sert à rien. Et comme vous croyez que grâce à cela, vous pouvez vous dispenser d'apprendre le français, cet outil magnifique va devenir une mauvaise prothèse pour des infirmes qu'elle aura elle-même fabriquées. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Et nous le faisons de façon irrémédiable, puisque nous ne pouvons pas empêcher que ces jeunes soient tout le temps en train d'écrire quand ils ont quitté la classe avec des correcteurs. Donc, ce que je dis, soyons un peu raisonnables. On commence par apprendre à écrire, évidemment, en manuscrit. On commence par apprendre l'orthographe, par faire des dictées tout à fait classiques. Et au bout d'un moment, et c'est aux professeurs, aux enseignants, à savoir quand, comment, c'est pas à moi de leur dire, je ne suis pas enseignant et je n'y connais rien, mais il y a un moment où on doit passer sur ordinateur. Et que la dictée doit être faite ordinateur, correcteur débranché. Ensuite, on branche le correcteur et avec le professeur, on réfléchit aux remarques faites par leur correcteur. On voit ce que ça veut dire, comment on s'en sert. Si ça ne se fait pas en classe, il est évident que les jeunes laissés en tête à tête avec les correcteurs seront de plus en plus mauvais en orthographe et que leur niveau ne cessera de s'effondrer. C'est tout ce que je dis. Et je vous signale que le même problème s'est posé à propos des calculettes et des machines à calcul. Et quand, en un premier temps, on a dit quelle horreur, jamais une calculette en classe. Et puis que les professeurs de mathématiques ont compris que ce n'est pas parce que la calculette existe qu'il ne faut plus apprendre l'arithmétique, mais qu'on n'apprend pas l'arithmétique à des jeunes qui toute leur vie auront une calculette, comme on l'apprenait à des jeunes qui toute leur vie devraient poser les opérations. Mais il est évident que seul le professeur des mathématiques peut comprendre ce qu'est une règle de 3, ce qu'est un pourcentage, ce qu'est un nombre fractionnel, ce qu'est une racine carrée, etc. Et qu'il ne sert à rien d'avoir une machine qui sait faire toutes ces opérations si vous ne savez pas ce que c'est. Donc, il y a une intégration totale des nouveaux outils techniques, et c'est vrai un niveau supérieur avec tous les calculs plus élaborés de l'algèbre, et c'est pas parce qu'on a des machines qui permettent de faire ces calculs qu'il faut pas maîtriser l'algèbre. Et c'est au contraire le professeur d'algèbre qui va vous apprendre à maîtriser les appareils de calcul. Et c'est pareil pour le français. C'est-à-dire que cette écriture automatique qui a fichu en l'air le système orthographique en supprimant la faute et en ramenant la faute au niveau de l'erreur, ben, il faut le prendre intelligemment pour que, grâce à son intégration dans l'enseignement, il répare d'une certaine façon le mal qu'il a fait. Et que les jeunes, apprenant à servir de ces machines, de ces logiciels, effectivement, feront beaucoup moins de fautes. Maintenant, qui ne sont plus retenus par la faute, ils feront beaucoup moins d'erreurs parce qu'ils seront alertés par le logiciel. Je ne sais pas, ça vous paraît révolutionnaire, fou, anarchiste. Je vous signale que c'est ce qui se fait dans toutes sortes de pays modernes, les pays scandinaves, le Québec, etc. C'est quand même pas la révolution des Khmers rouges.
Merci beaucoup. Merci.